Bonsoir. Nous allons commencer par un texte qu'on a fait ce Shabbat, Parshat Re'eh, chapitre 12, verset Kaftet. Vous avez probablement la traduction là, de Monsieur Zerbi vous a donné la traduction. Sinon, si vous avez un chumash, je vais lire et je vais traduire le texte lui-même. Alors, c'est Dvarim, Sefer Dvarim, Yud Bet. Verset Kaftet. Ki yachrit Hashem Elokech et Agoyim. Quand Dieu va éliminer les nations, Asherata Vasham al Reshet Otam, que tu vas rentrer là-bas pour hériter la terre Mipanecha devant toi, ça veut dire Yeshua Benoun, il est rentré en Eretz Israël. Et il a éliminé les sept peuples, il devrait en tout cas, il devait le faire, ils n'ont pas fait comme il faut, mais il aurait dû le faire. Bon. Alors, quand Dieu va éliminer les nations, que tu viendras là-bas pour hériter leur terre, tu vas les hériter, et tu vas t'installer dans leur terre. Fais attention. De peur que tu vas te faire piéger après eux. Après que tu les aies exterminés, après qu'ils sont éliminés, tu risques de se. C'est un piège pour toi. On pentidroche l'Elohim les morts, de peur que tu vas demander, tu vas chercher, tu vas t'intéresser l'Elohim à leur Dieu, les morts en disant. De quelle manière ces nations ils vont servir leur Dieu? Moi aussi, je vais faire comme eux. Ne fais pas ça pour ton Dieu. Car toutes les abominations de Dieu que Dieu il déteste, ils ont fait pour leur Dieu. Kigam et Benehem, et Benotem, aussi leurs garçons, aussi leurs filles, Yisrofu Baesh, ils brûlent dans le feu, l'Elohim pour leur Dieu. Qu'est-ce que ce texte, il nous dit? Il nous dit comme ça. Les Juifs rentrent en Eretz Israël, ils ont reçu une mitzvah d'éliminer les peuples, bien sûr. Pas tous les peuples. Dans toutes les conditions, si un peuple, si un homme ou un peuple accepte de se comporter bien, il n'y a pas de mitzvah de le tuer. Ça, c'est Rashi, le Rambam, tous les Rishonim, la Gemara. Si un peuple, il dit, j'accepte les sept mitzvahs de Noir, eh bien, on le laisse vivant, on ne lui fait pas de mal. Évidemment, quand on dit que vous devez les éliminer, c'est dans le cas où les nations, ils disent, non, on reste avec nos mœurs. Parce que là, il y a la mitzvah d'éliminer. Alors, la Torah nous raconte, une fois que Dieu il aurait éliminé ces nations devant toi et tu t'installes chez eux, Kishamer, tu dois faire attention de peur que tu vas te faire piéger par leur Dieu. Et tu vas chercher, tu vas dire, c'est Goyim, ils ont une religion, ils ont leur Dieu. Ça m'intéresse de savoir comment ces goyim, quel est leur culte des goyim, et je vais les imiter. Je voudrais aussi faire comme ces goyim. La Torah essaie de nous dissuader. Non, ne fais pas ça, Dieu. Car tu sais, toutes les abominations de Dieu, tout ce que Dieu il déteste, eux, ils font à leur Dieu. Ils mettent leurs enfants et leurs filles, leurs garçons et leurs filles, jettent dans le feu pour le culte de leur Dieu. Donc c'est dégoûtant comment ils font leur culte. Alors n'essaye pas de les imiter. Voici le texte. Mais ce qui est incompréhensible ici, quand un juif il veut, disons, imiter le goy, pourquoi un juif il imiterait le goy? Le goy, il a une autre religion. Le goy avec sa religion réussit plus ou il réussit moins que le juif. Si un goy réussit beaucoup avec sa religion, il est riche, il gagne des guerres, etc., il a beaucoup d'honneur, Alors les Juifs, ils veulent dire, je veux peut-être être un goy, parce que je vois qu'ils réussissent. On peut comprendre cette logique. Mais ici, le texte, il dit comme ça. Une fois que Dieu, il a éliminé les nations, et tu prends leur place, alors j'ai peur que tu vas, ça c'est un piège pour toi. En quoi c'est le piège? Tu vas dire, comment ces goyim, ils ont fait l'idolâtrie, je veux faire comme eux. Pourquoi tu veux faire comme eux? Tu veux te faire éliminer comme eux? Si Dieu a éliminé ces nations, donc il t'a aidé à toi, juif. Toi, juif, t'as vu comment Dieu il t'a aidé, t'as pu éliminer les sept nations. Donc leur Dieu, il sert à rien. Alors pourquoi la Torah nous dit, tout en aucune raison pourquoi les Juifs ils veulent les imiter. Quelle est la raison? Pourquoi la Torah elle a peur? Fais attention de ne pas se faire piéger après qu'ils ont été éliminés. Mais après qu'ils étaient éliminés, c'est une raison que les Juifs veulent les imiter ou que les Juifs ne veulent pas les imiter. Ils ne veulent pas les imiter. Et la Torah nous utilise le fait que Dieu les a éliminés. C'est une raison que le juif est intéressé à leur Dieu. Mais c'est le contraire. Ça, c'est la première question. Rashi pose déjà cette question. Sur Pasuk Lamet, après que Dieu les a éliminés devant toi. Ça, c'est une raison de ne pas les imiter. Rashi dit, la Torah dit aux juifs, tu vas pas quand même pas être bête de les imiter. Étant donné que tu as vu que Dieu les a éliminés, vous allez dire ainsi. Mais ce chat idée ne suffit pas encore. Parce que si ça fait partie du raisonnement que les Juifs n'éliminent pas, ça aurait dû être marqué plus tard. Donc, pas sous la médaille, l'OTA, c'est qu'elle ne fait pas ça. Quand la Torah essaie de dissuader les Juifs d'imiter le goy, elle dit, n'imite pas le goy. Le goy sacrifie son garçon et ses filles pour le veau des Zara. C'est moche comme ils font. Dans ce raisonnement, la Torah peut ajouter, et en plus, tu as bien vu que Dieu il a éliminé toutes ces nations devant toi, donc tu vois que c'est des nuls. C'est dans ce raisonnement que la Torah doit le marquer. Or, la Torah dit le mot acharei shamdam, quand elle parle, c'est un piège pour toi, ou pentidroche, tu voudrais les îles. Imiter. Où est la logique que les Juifs aient imité une religion, une culture, que le goy, qu'il a éliminé, il a éliminé ses peuples devant toi? En quoi ça donne envie de les imiter? Ça, c'est la question. Mais il y a ici une autre question. Quand la Torah avait dissuadé les Juifs de ne pas faire Avodah Zarah, quel argument la Torah utilise normalement? Pourquoi il ne faut pas faire Avodah Zarah? Beaucoup de fois, la Torah nous dit, ne faites pas Avodah Zarah. Qu'est-ce que la Torah comme argument? Regardons Dvarim, quatrième chapitre, verset 28. Ouvrez Dvarim, quatrième chapitre, verset 28. Alors, vous avez, c'est dans Parshat Vayetranan, Va vous allez servir là-bas d'autres dieux. On va vous obliger de servir d'autres dieux. Maaseï et des Adam, des dieux qui sont fabrication des mains d'un homme. Les hommes fabriquent leurs dieux, fabriquent ces dieux. Etzvaeven, des dieux en bois, vaeven en pierre. Sherloïroun qui ne voit rien. Les idoles, un Bouddha, il voit rien. Il est en bois et en pierre, fabriqué par des humains. Un homme, il fabrique un dieu. Sherloïroun, il voit rien. Veloïchmoun, il n'entend rien. Un homme qui prie à un Bouddha, mais le Bouddha, il n'entend pas. Il voit rien, il va pas à la problème des gens. Veloïchmoun, il ne mange pas. Veloïchmoun. La Torah nous dit qu'elle a Vodazara, c'est des ch'touyot, c'est des bêtises. Regardons un Tihilim. Demain, c'est Rosh Chodesh. On dit un Tihilim. Ouvrez le Tihilim, cours 115. C'est un chapitre que tout le monde connaît. On le dit chaque Rosh Chodesh. Alors, 115. Alors, je lis le chapitre. Pas pour nous, Dieu, pas pour nous, pour ton nom, ton honneur. Racha s'il te plaît, aide au peuple juif pour ton honneur. L'homme et l'homme, Goyim, Mayana Elohim, pourquoi que les Goyim me disent où est votre Dieu? Quand les Juifs sont en exil, et Racha selon les Goyim peut faire du mal aux Juifs, les Goyim me disent, il est où votre Dieu? Pourquoi votre Dieu ne vient pas vous aider? Alors, le psalmiste, David Emel, qui répond, mais à Tsabéhem, mais leur Dieu, qu'est-ce que c'est de ville en or, en argent? Maasé Adam, c'est fabriqué par les mains d'un homme, c'est pas un vrai Dieu. Pelehem veloye de Bérou. Leur Dieu a une bouche, mais il peut pas parler. Une statue en bois, en argent, en or, il peut pas parler. Anaïm lehem, on leur fait des yeux, veloye où ils voient rien. Osnaïm lehem, ils ont des oreilles, veloye ils n'entendent rien. Aflehem, ils ont un nez, veloye rechoun, ils ne sentent rien. Et dehem veloye michoun, leurs mains, ils peuvent pas tâter. Raglehem veloye aleichou, ils ont des pieds, ils peuvent pas marcher. Il n'y a aucun son qui sort de leur gorge. Que Mohem, Ionsehem, Kol, Asherboterbehem. Comme ces idoles valent rien, comme ça ceux qui les ont fabriqués valent rien. Kol, Asherboterbehem, tous ceux qui font confiance à ces dieux, ça ne sert à rien. Israël, toi juif, Betar Bashem, fais confiance en Dieu. Ezra Momeginamou, le Dieu des juifs, lui, il aide. Mais leur Dieu, ça sert à rien. Alors, il y a beaucoup de fois ce genre de texte dans le prophète. La voix des Assyriens, tout est inventé de toutes pièces. Ils fabriquent un Bouddha, ils prient, ils font des sacrifices, mais ça sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas faire la voix des Assyriens. Ça, c'est normalement. Mais maintenant, on va revenir à un autre texte. Dans Dvarim Yudbet, je reviens au texte Dvarim Yudbet. Après que Dieu il a exterminé les peuples devant toi, fais attention. Pentinakesh acharehem, de peur que tu vas te faire piéger derrière eux et tu vas chercher leur Dieu pour dire comment ce goy, comment lui fait Avodah Zarah, et moi je voudrais l'imiter, je voudrais faire la même chose. Alors comment la Torah dissuade ici les Juifs? Non, toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu. Ils sacrifient même leurs garçons, leurs filles, ils les brûlent dans le feu. Ça, c'était le service, le culte du Molech. On allumait du feu à gauche et à droite. Les gens, ils prenaient leur bébé, un enfant, et on les fait traverser le feu, on le jette d'un côté à l'autre côté. Et si l'enfant, il est brûlé, il est brûlé. S'il est cramé, il est cramé. Si son visage, il est brûlé, vite, on jette à travers le feu. Et ça s'appelle, enfin, Corban pour Dieu. Le Corban, c'était l'enfant. Les Juifs, on prend une bête, on fait égorge, la Havdil, on met sur le mizbéach, il brûle. Eux, ils prenaient leurs propres enfants, on va les sacrifier à leur Dieu et on les jette dans le feu. Des fois, ils sortent vivants, des fois, non. La Torah nous dit, mais regarde cette bêtise, mais regarde cette cruauté, tu vas quand même pas imiter ces goyim. Alors ici, un nouveau argument qu'on ne voit pas dans le reste de la Torah. Dans le reste de la Torah, on nous dit, la Avodah Zarah, c'est rien, c'est fabriqué par des hommes. Les gens, ils inventent des histoires. Alors ne fais pas faire la Avodah Zarah. Fais confiance à Dieu qui a créé, le notre Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est le chef du monde. Mais pas un morceau de bois. Pourquoi ici la Torah prend un autre langage? Il dit, ils font une cruauté. Mais dans cette paracha, en vérité, il y a quelque chose de très, très important. Mais avant de dire l'idée ici qui est cachée, on va regarder un petit peu le passage un peu plus près. Qui gamet penehem, aussi leurs garçons, aussi leurs filles, Yisrefu, ils brûlent dans le feu, l'Elohim pour leur Dieu. Pourquoi il a marqué le mot Gam et Benehem? Le texte, il aurait dit qui, et Benehem, leurs garçons et les filles, ils brûlent dans le feu pour leur Dieu. Pourquoi il a marqué le mot Gam? Alors, si vous avez Rashi, vous allez lire Rashi. Gam, Gam et Bnehem, Rashi dit, c'est la Gemara, les rabot et avotehem v'imotehem. Le mot Gam veut ajouter le père et la mère. C'est pas seulement les goyim, ils sacrifient leurs garçons et leurs filles pour leur Dieu. Ils sacrifient aussi leur père et leur mère pour leur Dieu. Rabbi Akiva dit, Ani raiti, moi j'ai vu, Rabbi Akiva voyageait beaucoup. Ani raiti, moi j'ai vu, Ovet Kochavim, un serviteur d'étoiles, Shekafto la Aviv, Lifnei Kalbo, il a menotté, il a ficelé, il a lié avec des cordes son père et sa mère, Lifnei Kalbo devant son chien, Vachalo, que le chien est là, mangez le père. Rabbi Akiva, il dit, j'ai vu que les goyim, pas seulement ils mettent leurs garçons et leurs filles pour le feu. Lui, c'est le Dieu, c'était son chien. Le chien, c'est son Dieu. Maintenant, il faut donner un corban à son Dieu. Il a donné qui comme corban? Son père. Il a pris son père. Il a attaché les mains. Il a jeté devant son bulldog. Le bulldog, il a mangé le père. Voilà, il a fait un sacrifice. C'est une histoire très bizarre. Comment c'est possible? Mais alors comment c'est possible de donner les garçons et les filles? Oui, la Avodah Zarah de brûler les garçons et les filles pour le feu. Aussi, c'est incompréhensible. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce type-là? Il nomme son chien un dieu. Il faut lui donner à manger. Et il trouve personne d'autre et il peut pas lui donner un morceau de viande. Et prendre une brebis, prendre un poulet et donner au chien, il prend son père, il l'attache, il le donne à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, avec cet argument, la Torah essaye de dissuader le juif de ne pas faire Avodah Zarah. Mais il n'y a pas d'autre argument pour dissuader les juifs de faire Avodah Zarah. On a besoin de faire, ça veut dire c'est la top cruauté qui existe chez les idolâtres. Et cette top cruauté, tu verras ça, c'est dégoûtant. Alors avec ça, Dieu veut pas que le juif est devenu un idolâtre. Et sans dire ce genre de truc, la Torah, elle a peur que les juifs veuillent changer sa religion. Mais pourquoi? Pourquoi il changerait sa religion? Et en plus, le goy, il a perdu toutes les guerres. Alors ici, il y a quelque chose de très profond. Ici, la Torah, en vérité, aborde un immense problème. Quand les Juifs sont rentrés en Eretz Israël, alors il y avait sept nations qui habitaient là-bas. Et ces sept nations, qu'est-ce qu'on devait faire? Si le goy, un individu ou toute la communauté ou tout le peuple veut accepter les sept mitzvot, très bien. Ils acceptent les sept mitzvot, ils ont fait le kolamaba, tant mieux, tout va bien. Mais s'ils refusent, ils veulent rester avec leurs mœurs, alors dans ce cas-là, il fallait les tuer. Mais comment il fallait les tuer? Il fallait tuer qui? La Torah nous raconte les sept nations, les hommes, les femmes et les enfants. Le fils Kharef, il y a une mitzvah, il y avait une mitzvah, Yeshua Benoun a reçu une mitzvah. Lo techaye kol neshama. Tu ne laisses vivant aucune personne. Ça veut dire que les Juifs, ils ont pris une épée, comme ça les marqué dans ces fois Yeshua Benoun, et ils ont massacré hommes, femmes et enfants. Pourquoi? De peur que ces goyim, avec leurs mœurs, ils vont être vos ennemis et ils vont vous faire trébucher. La Torah, elle a voulu que les Juifs éliminent cette nation, hommes, femmes et enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tuer quelqu'un, on n'aime pas tuer. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant de prendre une épée, couper la tête de quelqu'un. Comment les Juifs, ils ont réussi à le faire? C'est marqué dans la Tanakh, ils réussissaient pas. Ils avaient trop pitié. C'était mal fait. C'est comme ça qu'il est marqué dans la Tanakh. Et c'est pour ça, Béhémet, ces nations, Ils ont fait un peu trébucher les Juifs. Mais Hachem, il a prévu que vous allez jusqu'au bout. Mais c'est quelque chose qu'on peut dire que c'est dégoûtant. C'est contre la nature d'un homme. Tu es femme et enfant. C'est terrible. La Torah, elle dit comme ça. Moi, j'ai peur. Quand Dieu va éliminer ces nations devant vous, c'est-à-dire quoi, Dieu va les, il va vous aider que vous les éliminez. C'est pas que Dieu va le faire tout seul. Il demande aux Juifs de le faire. Mais une fois que les Juifs, ils le font et ils réussissent, Akedesh Bokhu, il a peur. Je sais qu'est-ce que vous pensez dans le cœur. Vous pensez que peut-être la religion juive est pas une jolie religion. Peut-être les idolâtres, ils étaient mieux que nous. Qui nous a permis de tuer toutes ces populations? Et les Juifs, ils vont regretter. Et les Juifs, ils vont dire, ouais, j'ai massacré des centaines de milliers de gens. Et notre religion, peut-être, elle n'est pas bonne, elle est cruelle. Peut-être je dois m'intéresser quel était le culte de ces goyim. Peut-être ils sont mieux que nous. Cette idée peut monter dans la tête du Juif. C'est ça que la Torah, elle a peur. Pasuk Lamed. C'est toujours Yud-Bet, chapitre Yud-Bet, Pasuk Lamed, Ishamer Lecha, fais attention. Pentina Kesha, de peur que tu vas te faire piéger. Kherei Shamdami Panecha, après que tu les as exterminés. Pentidro, après que tu les as exterminés, tu auras une mauvaise conscience. Ou Pentidroch Lelehem, tu vas chercher leur Dieu. Les morts en disant, comment ces goyim y servent leur Dieu? Peut-être je veux devenir un idolâtre. Peut-être leur religion, il est plus humain. Ma religion, il est cruelle. Sur ça, la Torah nous dit, ne fais pas ça. Alors, la Torah dit pas simplement l'argument en disant, mais la Vodazara, c'est rien, comme elle dit toujours. Mais ils ont une bouche, ils peuvent pas parler. Mais ils ont des mains, des pieds, ils servent à rien. Ça, c'est pas un argument. Parce que les Juifs, ils peuvent dire, d'accord, ça sert à rien, Avodah Zarah. Mais au moins, ils sont pas cruels comme nous. Eux, ils n'ont pas dit qu'il faut exterminer une nation qui croit pas à ce que nous disons. Et nous, les Juifs, on a reçu la mitzvah d'exterminer ce qui n'est pas d'accord avec la vraie religion. Peut-être la religion des goyim est mieux, parce qu'eux, ils n'exterminent pas. Et ça, c'est, il y avait un goy qui s'appelait Voltaire. Il a écrit ça contre les juifs, terrible. Les écrits de Voltaire sur le judaïsme, c'est la base de tout ce que Hitler, il a écrit. Mais regardez le Tanakh, le Tchaïe Kol Neshama, les juifs, ils veulent exterminer tous ceux qui pensent pas à leur Dieu. On n'a jamais vu des choses comme ça. Voltaire, il écrit tout ça. Il a créé un antisémitisme de folie, malgré que lui, Voltaire, il a écrit le bouquin qui s'appelle La tolérance. Il faut être toléré, chacun qui pense autrement de toi. La tolérance, la tolérance, la tolérance. Et quand il arrive aux Juifs, il dit, c'est le peuple le moins tolérant qui existe. C'est le pire des espèces humaines. C'est de la folie ce que Voltaire il écrit. Ceux qui n'ont pas vu ça, ils ne peuvent pas s'imaginer que Voltaire il écrit des choses comme ça. Il fait des accusations contre le peuple juif, pire de ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, je reviens, cette pensée peut monter aux juifs. Alors la Torah nous dit, s'il te plaît, ne crois pas que les goyim sont mieux. Ils sont beaucoup pires que toi. Pourquoi? Ils tuent leurs propres enfants. Ils jettent leurs enfants. Ils font des choses complètement contre la nature. Toi, au moins, t'as tué des gens parce que la Torah t'a dit que si tu le tues pas, eux, ils vont te tuer. Donc, Hachem vous a donné la terre. Eux, ils vont vous tuer. On a d'autres possibilités, on n'a pas d'autres possibilités que de les tuer. D'accord. Mais les goyim, ils tuent leurs propres enfants. Et comme Rashi dit, comme Rabbi Akiva dit, ils tuent leur propre père et mère. Il a vu le goy prendre son père, qu'il a donner à manger à son chien. Alors ça, c'est une chose, c'est une cruauté, une folie. La Torah nous dit, mais sachez, l'avodazara, c'est de la folie pure. Donc ne soyez pas des idolâtres. Bon, mais ça ne répond pas entièrement. Mais les Juifs, quand même, ils font des choses cruelles d'éliminer ces peuples. Alors le goy, il est encore plus cruel. Il s'agit ici d'un degré de cruauté. Mais ici, il y a un tout à fait autre chose en vérité. D'abord, il faut savoir qui étaient les sept peuples. Il faut mettre dans le contexte. Est-ce qu'aujourd'hui, les goyim, comme nous le connaissons, et les sept nations à l'époque, est-ce que c'est la même espèce ou pas? Et pas seulement les goyim d'aujourd'hui, tous les goyim du monde entier et les sept nations. La Torah nous dit que les sept nations étaient un peuple très spécial. C'était pas la culte de toutes les idolâtres. Mais les sept nations, ils faisaient ça. Et pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils l'ont fait? Alors, je vais ajouter ici quelque chose. En Inde, il y avait une coutume qui durait 1 000 ans, 2 000 ans, pas tous les hindous, mais une partie. Quand un homme, il a 70 ans, il a 80 ans, il meurt, et il a une femme, la veuve. Alors, beaucoup des hindous, dans le culte d'hindouisme, ont tué la veuve, on l'a brûlée. Public, des fois, elle n'était pas d'accord, et souvent était d'accord. Dans leur religion, ils ont dit, ils ont argumenté, quand un homme, il meurt, il doit rentrer à Gan Eden, mais il doit passer beaucoup des endroits très dangereux. Une femme fidèle à son mari, fidèle pendant la vie, elle est fidèle après la mort aussi. Donc elle doit l'accompagner. Donc on disait aux petites filles, vous allez être fidèles à votre mari pendant la vie, pendant la mort, et s'il meurt avant vous, vous allez l'accompagner et vous allez le protéger. Et beaucoup de femmes étaient d'accord. Ça faisait partie de la religion. Qu'est-ce que c'est, folie? D'où ça vient? En vérité, le pshat, il est pachout. Et ici, c'est le point. Ces curés qui ont inventé ce culte, ça venait parce qu'ils ont reçu une inspiration que le Dieu, il veut que la veuve, elle meure. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Le curé dit, donnez vos enfants à travers le feu. Mais qu'est-ce qu'il est tombé? Qu'est-ce que ces curés sont tombés sur la tête? Ils disent aux gens, fais un sacrifice, sacrifie ton fils, jette ton fils pour le feu. Mais quel méchouvenard il va écouter ça? Mais comment leurs curés sont arrivés à cette idée de demander ça aux gens? Ici, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. On va lire un passage dans Parchat Acharemot. Prenez Sefer Vayikra. Chapitre Yutret. Vous avez chapitre Yutret. Verset Kaf. Chapitre Yutret, verset Kaf. Vel Eshet Amitecha. Vous avez chapitre 18, verset Kaf. Vel Eshet Amitecha est la femme de ton prochain. Lotiten Shechoftecha Ne vis pas pour donner une descendance à la femme de ton copain. Le tomaba, c'est une impureté. Fais pas d'adultère. Ne vis pas avec la femme de ton copain pour faire un enfant. Ou Mizaracha est ta descendance. L'otiten ne donne pas au curé la avir la molech pour que lui fait passer cet enfant la molech au dieu molech. Ne profane pas le nom de ton dieu. La Torah nous parle ici de deux coutumes. Tu ne vis pas avec la femme de ton prochain pour avoir un enfant et ne donne pas ta descendance au roi molech, au dieu molech. Pourquoi ces deux mitzvot sont marquées une à côté de l'autre? Alors ici, c'est le secret de tout. Qu'est-ce que c'est le culte d'Abodazara? D'où ça vient le culte d'Abodazara? On se met un dieu dans la tête et on sert à ce dieu. Et on se fait des sacrifices. Et des fois même les enfants. Le pshat, il est comme ça. Il y avait, comme ça dans le monde, ça existe, on fait l'adultère, un homme il fait l'adultère. Et des fois, la femme elle tombe enceinte. L'enfant, il est né. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant, il est né par un adultère? L'enfant, il ressemble au vrai père physique ou il ressemble au mari de cette femme? Comment est son visage? Eh bien, le visage, il sera comme le vrai père. Maintenant, imaginons-nous dans un couple, la femme, elle a fait l'adultère. Elle est tombée enceinte d'un autre homme. L'enfant, il est né. Après quelques semaines, le mari de cette femme, il va penser que c'est son fils. Il regarde le visage. Il dit, mais il me ressemble pas, moi. Et peut-être à un moment, après quelques mois, il aura des soupçons. Il verra, ça ressemble plutôt au voisin. Ou ça ressemble, je ne sais pas quoi, au boucher. Ou au facteur. Ou à un beau-frère. Ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre. Et le mari, il a des soupçons. Il va dire, comment ça se fait que tu as mis au monde un enfant, mon fils? Comment ça se fait que son visage ressemble à ce voisin? Et peut-être le mari, il a vu que sa femme, il a un peu, elle est un peu copine d'un certain monsieur. Et il va remarquer que c'est pas son fils. Donc, sa femme a fait l'adultère. Il risque de vouloir, je sais pas, tuer sa femme, divorcer, tuer. Qu'est-ce qu'elle fait à une femme comme ça? Il y avait des curés. La femme, elle va chez le curé, dit, monsieur le curé, sauvez ma vie. Mon mari va savoir que j'ai fait l'adultère. Il va me tuer quand il va le remarquer. Trouvez-moi une solution. Là, le curé a réfléchi. Il a inventé un truc. Là, j'ai trouvé le truc. Je vais dire au mari, il y a un culte qui s'appelle sacrifier les enfants à travers le feu au Dieu. Ce monsieur, je sais qu'il fait aussi des péchés. Je vais dire chez ce monsieur, vous avez fait des péchés, c'est grave, Dieu va s'énerver. Eh ben, il faut que vous fassiez un grand sacrifice. Quoi? Eh ben, je pense que vous devez prendre votre fils et le jeter à travers le feu et dire, Dieu vous pardonne vos péchés. Et le père, il prend les dons au curé, le curé passe travers le feu, l'enfant, et il se fait cramer le visage, on ne reconnaît plus où il meurt. Ça veut dire, le sacrifice au Dieu n'était pas parce que le curé croyait que comme ça on satisfait le Dieu. Tout ça, c'est du bourrage de crâne. C'est pour aider aux gens, aux femmes qu'elles ont fait l'adultère. Ou des fois, le père lui-même, il était d'accord. Des fois, le père, il savait que sa femme a fait l'adultère, mais la honte devant tout le monde. Donc, pour se débarrasser du problème, quand quelqu'un, il a un enfant, il veut pas cet enfant, il a honte de cet enfant. Parce que je me voulais débarrasser de cet enfant. Mais on ne peut pas faire, ça se fait pas dans la... Tu es comme ça un enfant. Alors, c'est déguisé dans un jeu de service au Dieu. Dieu, il a demandé. Le Dieu de ces sept, ça c'était le truc de ces sept nations. La Torah nous parle ici des sept nations. Ces sept peuples, ils avaient une avodazara d'une cruauté que tout était inventé justement pour s'en sortir des problèmes. C'est pour ça la Torah met les deux choses une à côté de l'autre. Ne fais pas l'adultère avec la femme de ton prochain pour avoir un enfant. Et de ton fils, d'un enfant, ne donne pas l'enfant en moléré. Les deux choses sont liées. Je reviens à l'histoire qu'en Inde, ils faisaient le sati, le coutume s'appelle le sati. C'est quoi? Un homme qui meurt, on tue la veuve. Mais d'où ça vient cette folie? Et on raconte une histoire, la femme, elle va accompagner son mari, elle est fidèle, comme pour amener le mari à Olamaba. Tout ce bourrage de crâne. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens en Inde que quand un homme il mourait, tout était le père, le grand-père était le chef, il dirigeait sur tout l'argent. Et quand le père il mourait, les enfants, les petits-enfants, ils ont pu prendre l'argent du père et du grand-père. Mais s'il y a une grand-mère, la grand-mère prend la place du grand-père et c'est elle qui gère. Et le petit-fils, il veut déjà avoir l'argent. Il peut plus attendre que la grand-mère meure. Il veut utiliser l'argent. Faut se débarrasser d'elle. Ça existe, le Yetzirah, de se débarrasser des parents qui dérangent. Un père qui a 90 ans, qui veut pas mourir, et garde l'argent pour lui. Et les enfants, les petits-enfants, ils veulent l'héritage. Il faut trouver une solution. Eh bien, les hindous, ils ont trouvé, on raconte à la mère, tu accompagnes ton mari, c'est pour se débarrasser de la matriarche de la maison, pour qu'on peut déjà prendre l'argent. C'est pas sûr qu'aujourd'hui, ça n'existait pas dans la modernité. Quand ils parlent aujourd'hui en France, que quand il y a des souffrances, on élimine les gens, mourir pour... Ça, c'est le début. Ils ont permis le gouvernement de médecin, il injecte parce qu'il a des souffrances. Mais est-ce que ça va s'arrêter ici ou ça va continuer? Souvent, ça continue. En vérité, l'intention, c'est d'éliminer les vieux. Ça coûte trop cher pour la société, pour l'État. On n'a pas d'argent. Et les enfants, les petits-enfants, ils veulent l'argent. Et les vieux, ça coûte très cher. Les hôpitaux, faut trouver une solution. Ah, on va soupçonner les gens, le législateur, les politiques, de cette pensée. Qui me dit que non? Qui me dit que les législateurs, une fois qu'on a fait sauter le bouchon, on peut tuer pour certaines raisons parce que la personne est malade. Une fois qu'on est arrivé à ça, qui me dit qu'en vérité, on veut pas aller plus loin? Mais c'est pas ça que je vais parler maintenant. Je parle maintenant les sept nations. Les sept nations étaient très spéciales quand la Torah elle a demandé aux Juifs, vous allez éliminer les sept nations. Et le juif, il dit, ouais, j'ai tué femme et enfant. L'autre kol neshama. Peut-être la religion de ces goyim, de cette nation, elle est plus humaine que la mienne. La Torah nous dit, sache qu'elle, c'est de la cruauté. Quand je reviens à ce que Rabbi Akiva, il a dit, j'ai vu un goy, un Oved HaKochavim, qui a attaché son père et il a donné à son chien, c'était le Dieu. Un goy, il a pris un bulldog, c'est mon Dieu. Après, il a dit, mon Dieu a besoin de la viande pour manger. Rabbi Akiva dit, il a attaché les mains et les pieds de son père. Il a donné à manger à son chien. Ça faisait le culte de son idolâtrie. Mais si tu as un chien qui est un Dieu et tu veux lui donner à manger de la viande, vas-y, achète un mouton. Tu peux acheter un mouton. Pourquoi tu prends ton père? Le pshat, il s'agit d'un homme qui voulait se débarrasser de son père. Le père était millionnaire, ou multimillionnaire, où il avait 100 000 euros. Et le fils, il veut avoir l'argent. Il veut pas s'occuper de son père. Son père, il est vieux, et il faut lui donner à manger, à boire et s'occuper. C'est très difficile faire kibboud avohem avec un père qui est vieux. Alors, la religion de ces idolâtres, ils ont fait. Le curé disait au monsieur, vous voulez vous débarrasser de votre père? Eh bien, nous avons un système. Il faut donner à manger au Dieu. Vous avez un Dieu, le chien. Achetez un Dieu, achetez un bulldog pendant quelques années. Et il dit, après les gens, peut-être, on ne le savait pas. C'est devenu, une fois que c'est un bourrage de crâne, les gens, ben, peut-être, ils étaient, entre guillemets, naïf de croire que c'est Bémet, le bulldog Dieu, le Dieu bulldog, il veut ce corban. Il y en a qui, ce monsieur, il donnait son père peut-être parce qu'il voulait l'héritage, ou peut-être il était tellement naïf, il croyait que c'est une bonne chose, ou le père, il a fait beaucoup d'avérotes, et le curé, il a dit, monsieur, vous allez mourir. Dieu va vous donner dans l'enfer des punitions. Faut être un grand sacrifice. Quel sacrifice? Je pense que c'est une bonne chose que vous sacrifiez votre père. Et peut-être l'homme, il voulait pas le faire, mais il l'a fait pour une fois que ça devient un jeu, on l'utilise pour n'importe quoi. C'est ça que la Torah nous dit ici. Sache que ces sept nations, ils n'ont pas une religion de bonté, de droiture, parce que c'est la cruauté même, c'est ça que la Torah nous dit. Ils sacrifient même leurs garçons, leurs filles, et les pères, leurs mères. Donc, il faut pas que tu aies un complexe. Pourquoi on les a éliminés? La Torah, elle dit, l'autre école Neshama, parce qu'elle était archi pervers. Maintenant, regardons un petit peu dans Parshat Ahremot. C'était des perversités dans tout. L'inceste, l'adultère étaient institutionnalisés dans ces sept nations, chez ces sept nations. Regardons Vayikra Yutret. Vayikra Yutret. On commence le chapitre. Vaydaber Hashem el Moshe les morts. Dieu, il a dit à Moshe, Daber el Bnei Israël, parle aux Juifs, Amartelem, tu vas leur dire, Ani Hashem Elokechem, moi je suis votre Dieu. Kama se'eretz Mitzrayim, comme le comportement du pays d'Égypte, où vous avez habité, ne faites pas. Ne faites pas comme les Égyptiens. Vous commencez à être Canaan, comme le comportement du pays de Canaan. Ne faites pas ça. Que le gouvernement a instauré des lois, il y a des lois instaurées par le gouvernement, ne marchez pas. Faites mes lois. Faites ma religion. Maintenant, quel était leur hukim? Quel était leur mishpatim? Quelle était la loi de l'État? Quelle était le mœurs? Un homme, vers sa chair proche, ne vous rapprochez pas pour faire l'inceste, ani Hashem. Ne vis pas avec ton père. Ne vis pas avec ta mère. Imchaï, c'est ta mère, l'autre. Ça veut dire que chez les sept nations qu'on a dit avant, les Égyptiens, les anciens Égyptiens, et les peuples qui habitaient en Eretz-Kenan, c'était leur façon de vivre, un père avec son père, avec sa mère. Ervat, ne prends pas la femme de ton père. Ervat, ne vis pas avec ta sœur. Ervat, bat pincha. Ne vis pas avec la fille de ton fils. Ça veut dire systématiquement, ces sept nations, le grand-père, il a vécu avec sa petite fille. Ervat bat. Ne prends pas la femme la fille de la femme de ton père. Après, pasuk yud bet ervat la tante. Après yud gimel ervat la sœur de ta mère. Le frère de ton père. Ne te rapproche pas vers sa femme. Ta belle-fille. La femme de ton frère, la belle-sœur. Une femme et sa fille. Après, ne prends pas deux sœurs. Ne prends pas une femme nida. Pasuk Kaf, c'est le pasuk que je disais avant, la femme de ton prochain lotiten, ne fais pas l'adultère. Et après, et ta descendance ne donne pas au mourir. Pasuk Kaf Bet, deux hommes, faites pas toi et va, c'est une abomination. Ou vous pouvez et ne vis pas avec un animal. La zoophilie, ne vous rendez pas impur avec ça. Parce qu'avec toutes ces choses-là, se sont rendues impures les nations, les populations que je demande que vous allez les éliminer, ces sept nations, Eux, ils étaient impurs avec tout ça. Ça, c'était les mœurs de cette nation. La Torah, quand elle a demandé aux Juifs d'éliminer les sept nations, c'était des archipourris qu'on peut même pas s'imaginer aujourd'hui. Ça veut dire le peuple juif a fait œuvre de salubrité publique, je sais pas comment on appelle ça. Le monde était infecté par des humains, des archi-pervers. Il fallait donner un grand coup dans la fourmilière, massacrer ces nations, et le monde entier a entendu, il y a un Dieu, il y a une religion, il y a le peuple juif, ils ne supportent pas ces choses-là, ils ont massacré ces... Et là, le monde a commencé à se civiliser. La civilisation aujourd'hui, Vadaï, c'est les Juifs, ils ont commencé au Proche-Orient d'inventer des lois. On ne touche pas la belle-sœur, on ne touche pas la belle-mère, on ne touche pas la belle-fille, on ne touche pas l'adultère, on ne touche pas un homme, on ne touche pas tous ces incestes. Et les Goïm, ils ont appris de respecter. Et après, c'est parti chez les autres. Et après, il y a des Goïm qui ont imité le judaïsme, ils ont parlé de nous, des religions, et ils ont civilisé l'humanité. Mais il fallait d'abord commencer à éliminer cette nation. C'est ça que la Torah nous dit aux Juifs. Les Juifs, ils peuvent avoir une mauvaise sentiment. Vaille, j'ai tué toute une culture de cette nation et je regrette. Peut-être notre religion, elle est plus cruelle que leur religion. Fais attention. Ne te laisse pas embrouiller parce qu'ils regardent leur religion, c'est ils tuent leurs enfants. C'est toute la religion, elle est une perversité. C'est ces gens-là que Dieu t'a demandé de tuer. Alors, je continue le verset dont Vayikra traite. Les goyim que je renvoie devant vous, ils étaient impurs avec tout ça. Pasuk kafei, patit maaretz, la terre, elle s'est rendue impure. Vayefka de bonaléa, je rappelle le péché, vatakiaretz et la terre, elle a vomi ses habitants. Ushmartem, Atem et Trukotay et vous allez garder mes lois. Velotasu, vous faites pas toutes ces abominations. Aizrach, qui est kolatorot et elle, car toutes ces abominations, asu, anchearet, ils ont fait les hommes de la terre qui étaient devant vous, petite maharet. Et faites attention, vous, velotakiaret, etc. Faut pas que la terre vous vomit. Si vous la rendez impure, alors faites attention, ne tombez pas dans ces travers. Il est tout ce qui fait ces abominations. C'est tous ces lois d'abomination qui étaient faites devant vous. Donc ici, maintenant, on revient, maintenant, on comprend cette histoire de Dvarim. Maintenant, Yudbet, je reviens maintenant le passage Kaftet, je reviens Dvarim Yudbet Kaftet, contre ces goyim, Dieu va exterminer ces nations devant toi. Fais attention, de peur que tu vas te faire piéger. Après que tu les exterminer, tu auras des états d'âme. Tu risques de regretter. Tu risques d'avoir honte. Tu risques de se sentir mal. Les morts, de peur que tu vas chercher leur Dieu, les morts. Comment ces goïms, ils ont servi? Je veux faire comme eux. Peut-être leur religion était plus humaine. Eux, ils font toutes les abominations qui permettent de mettre nos thèmes pour les geler. C'est pour ça, ici, la Torah nous parle de ces abominations. Maintenant, on va aborder un deuxième sujet qui est la suite de ce sujet. Ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a dans le monde entier un mouvement anti ce qui se passe en elle. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient du Hamas et tous les goyim autour, les trucs, ils veulent détruire Eretz Israël. Donc il y avait une guerre. Ils ont massacré à Gaza. Et le monde entier accuse les Israéliens génocide. Vous avez tué des femmes et des enfants. Vous avez massacré des hôpitaux, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Et il y a un grand mouvement dans le monde, tous les jours un peu plus. Mais c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est à l'intérieur de l'État d'Israël aussi. Pas seulement les gens qui veulent faire tomber le gouvernement proposé fait ça parce que la gauche va être et pas la droite. Pas seulement pour ça. C'est Béhémet, il y a des soldats, il y a des politiques qui disent, peut-être on a fait des crimes. On a tué des femmes et des enfants. Les politiques, ils ont donné l'ordre. Hein? Et les soldats et les avionneurs, ils ont accompli. Et il y a des juifs qui disent, on se sent pas bien, on tue des gens. Il y a des soldats en RS qui souffrent d'une mauvaise conscience. Qui m'a permis de tuer des femmes et des enfants? Et ce problème, c'est un grand problème. Je raconte une petite histoire. Quand j'étais en Eretz Israël, et il y avait un monsieur, un juif américain. Il était dans ma dira aussi à un moment. Et c'était un Baal Tchouva. Il a grand taponique, mais il était un peu dérangé. Il a été soldat dans l'armée américaine au Vietnam. Il a jeté beaucoup de bombes au Vietnam. Et à un moment, il a fait Tchouva. C'est une histoire très intéressante. Il était au Maroc, il a rencontré avec Baruch Toledano. Il y avait des soldats américains qui étaient trucs. Et là-bas, il a fait Tchouva avec Kitsour. Et toute sa vie, il est niftar, pauvre jeune, il ne s'est jamais marié. Il avait une mauvaise conscience. J'ai tué des hommes, des femmes et des enfants au Vietnam, ils m'ont rien fait de mal. Qui m'a permis de le faire? Et ça le dérangeait beaucoup. Et pour revenir en arrière, il y a beaucoup de juifs en Eretz qui se sentent mal. Et il y a un bel mélange. D'abord, ils ont peur des goyim, les accusent, ils ont peur de vengeance des goyim. Et les goyim, ils disent, vous êtes génocidaires. Et eux-mêmes, ils ont jeté des bombes. Et ils ont vu, il y a des films. C'est mieux de ne pas regarder parce que c'est dégoûtant. Mais eux, ils ont vu ça avec leurs yeux. Et ils voient dans les films et des trucs comment il y a des hommes et des femmes qui meurent. Et ça, c'est un grand problème. Et ça, c'est fait partie de la guerre que les Arabes font. Ça, les Arabes travaillent pas seulement avec le couteau ou avec les armes, avec les drones, avec les fusils. Ils travaillent avec les films et avec le sentiment de créer chez les Juifs un mauvais sentiment. Jusque les Juifs, ils disent, nous ne pouvons pas justifier la défense de notre pays et c'est ça qu'ils cherchent. Et ce problème, je ne sais pas s'il est moins grave ou plus grave que le danger des goyim. Les goyim, c'est un danger. Et le danger, ce n'est pas seulement des enfants de Gaza. Il y a des immenses forces. Et les Européens le savent. Les Européens, les peuples européens, ils savent qu'Eretz Israël est en danger de tous les côtés. Et si ça tient, tout ça, c'est un S. Tout ça, c'est un S, un petit peuple qui doit lutter contre tous ces fous autour des centaines de millions. Et les Européens, ils leur aident en argent et en hypocrisie. Mais ça fait partie de la guerre. Et qu'est-ce que le soldat juif, ou qu'est-ce que le politique juif qui a dit oui, on se défend? Et c'est quoi la solution? La solution, c'est un de ceux qui est marqué ici. C'est en vérité, ils veulent jeter les Juifs dans la mer, femmes et enfants. Et c'est ce qu'ils veulent. Et ils ont toujours voulu, et depuis le début, avant l'État, et même indépendant d'Israël, même Les antisémites, ils ont leur projet. Pas toutes les générations. Mais quand ils trouvent une tarana de le dire, et on ne laisse pas aux Juifs autre chose que de se défendre. Pourquoi je dis ça? Il faut que les soldats, les rois, les soldats et les politiques ne se font pas des soucis. Et il n'y a pas seulement des soldats et les politiques. Le simple homme qui habite en Eretz, même les gens qui ne font pas l'armée, mais ils entendent, ils voient la radio et les trucs, ils se disent, mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que notre existence en Eretz Israël justifie qu'on se défend au point qu'on est obligé de tuer hommes, femmes et enfants? La réponse, elle est, c'est une guerre qu'on les a oubli, on les oblige de faire. Ou même il est, les autres, ils le savent très bien. Et avec cette cabana, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent qu'ils meurent 1 000 ou 10 000 ou 100 000, ils s'en foutent. Ils le disent. Ils éduquent comme ça, les enfants. Ils éduquent comme ça. Nous sommes 1,5 milliard. Les Israéliens sont quelques millions. De toute façon, même s'ils vont tuer 10 millions, 100 millions, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? À la fin, nous, on gagne. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Mais ils espèrent que le Juif aura plus pitié de leurs enfants que eux-mêmes. Bon, maintenant, ça, c'est une chose. Il y a je ne sais pas si vous avez vu, il y a un livre de ça. Il y a un arabe qui a vécu au Gaza, qui s'est converti au judaïsme. Il a fait toute une interview, plus que 2 heures. S'est converti, il a vécu 100 mètres, sa maison était 100 mètres à côté de tous les chefs du Hamas. Il a dit, tous ont été éduqués que la plus grande mitzvah, c'est de tuer un juif. Il dit qu'il y a un tel bourrage de crâne. Et il raconte comment ils sont honteux. C'est très spécial comment il raconte. Comment honteux, comment il y a la société. Et il dit que maintenant il se convertit au judaïsme, il vient en Israël. Dites-vous, les juifs, vous êtes heureux que vous êtes nés juifs, que vous avez notre caractère. Lui, il voit la différence entre qu'est-ce que c'est un juif, comment eux ils sont. Et dit, vous dites, vous devez danser tous les jours quand vous dites ça. Il dit, moi, j'ai après 37 ans, je pouvais avoir le choix d'être un juif. Et vous êtes déjà né juif. Ça, c'est la première partie. Mais il y a une deuxième partie. Que toute la guerre en Eretz Israël et que le monde entier se mêle et que c'est une telle. C'est jamais, ça n'existait pas dans le monde une guerre comme ça, que des gens qui n'ont aucun rapport avec la choucroute se mêlent. L'Iran, qu'est-ce qui se mêle? L'Iran, il n'y a aucun rapport avec les Palestiniens. C'est une guerre, badaï, c'est une guerre mystique qui vient du fait que les goyim, ils ont peur que ça va finir avec Mashiach. Ils ont peur. Ils savent que les prophètes ont dit à la fin de l'exil, les Juifs reviennent en Israël. Et à la fin, Hachem, il va aider, il va tourner l'histoire d'une sorte qu'on est obligé d'accepter les Emouna. Et que les péchés doivent arrêter. Tous les prophètes sont pleins de ça et les goyim le savent. Ils ont peur de ça. Et c'est pour ça qu'ils veulent embêter les Juifs. Ou même, si c'est ça le plan d'Hachem, donc Akadosh Baruch Hu, il est derrière. Les Juifs en Eretz Israël, il y a des miracles sur des miracles, malgré que peut-être les Juifs ne sont pas tous mamash, des partie des 38 tzaddikim. Pas tous les Juifs sont des 38 tzaddikim. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles. Plus forte raison, s'ils vont être vraiment des tzadikim, si nous allons être vraiment des tzadikim. Mais, de savoir que la guerre en Eretz Israël, c'est une guerre de folie. C'est une guerre que tous les prophètes ont parlé de ça. Et qu'Hachem, il a un intérêt suprême. Et l'égoïme, il connaît cet intérêt suprême. Et c'est ça, cette guerre. Nimtza, que c'est tout à fait autre chose si les Juifs se rendent compte. C'est une guerre qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de mener cette guerre. Et les prophètes, ils ont dit que tous les goïms qui voudront se lever, chasser les Juifs d'Israël, ils vont recevoir des claques sur des claques et des claques. Et les prophètes, ils ont dit ça. Beaucoup de prophéties, ah, ce sont des arguments que les Juifs, ils doivent se mettre. Les Juifs, ils doivent savoir, il ne faut pas qu'on ait une mauvaise conscience. La guerre en Eretz Israël, il y a avec des armes. Et c'est une guerre psychologique. On veut faire rentrer dans le juif l'idée que vous êtes cruel. Le monde goy, et il y a quelques imbéciles juifs aussi qui leur aident un peu. Il y a beaucoup de juifs qui ont peur aussi, par peur ou par des petites politiques, parce qu'ils ont influencé, ils ont troublé, ils connaissent ni Mashiach, ni la Torah. Il y a une ignorance, mais on entend la propagande du monde et c'est une guerre psychologique pour créer chez le juif, à ce shalom, des états d'âme pour que les juifs ils pensent que je suis cruel et je n'ai pas le droit de faire cette guerre. Et c'est ça la Nekouda. Ici, la Torah nous dit. Ce que la Torah nous dit ici dans le Yud-Bet, Sugim, Lamed, Itchama fais attention, Pentin, de peur que tu les fasses piéger après que j'ai étudié. Et que les Juifs, il va dire, peut-être je dois accepter la religion des Goy, peut-être elle est meilleure. La Torah nous dit, c'est pas comme ça, elle est pas meilleure, elle est mille fois pire. Et quand Kadeshbohu, il a dit aux sept nations, je dis bien qu'aujourd'hui, il faut les éliminer. Aujourd'hui, n'est pas là pour éliminer les autres, là, pour se défendre. Mais quand ce qu'on a besoin de pour se défendre, malgré qu'il y a des scènes qui sont difficiles à vivre, il y a des soldats qui sont traumatisés, il faut guérir ce traumatisme. C'est eux, ils ont voulu. C'est les autres, ils ont voulu. On n'a pas besoin de ces faire des mauvais sons. Donc ça, c'est le Moussa Raskel qu'on peut apprendre de toute cette histoire. Bon, bonsoir.